Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Got gun. Hulk left slot.
Dixie left. Key left.
Mercedes. Wide chip. Ricky.
Bieber left. 75. Katie. Omaha.
We're going.
Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Ducks it up to Donnie Avery. Yeah! Go ahead. Goal line. Touchdown. Touchdown.
Touchdown.
Touchdown.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 528 du podcast Touch Nactus. Déjà 28, on a fait la 500e quoi en septembre. Ça avance à un rythme fou en quotidienne maintenant. Lucas Vola est avec moi, bonjour Lucas.
Salut Alain et salut tout le monde.
T'imagines 30 épisodes en 7 semaines, on va en faire quoi, 70 sur l'année, non?
C'est vrai que 528, ça est monté d'un coup. J'ai l'impression, j'écoute pas particulièrement à chaque fois le numéro quand tu l'annonces, mais de temps en temps, ça, je l'écoute et on est déjà à 528. Oui, en effet,
bah, c'est ça. En fait, on numérote les inédits. Donc maintenant, il y en a 4 par semaine. Ouais, c'est ça, 4 par semaine. Donc oui, bientôt, on sera à 100 par an, quoi, hein, si tu rajoutes la draft et tout ça. Heureusement qu'on numérote pas les previews, hein, parce que sinon on ferait exploser les compteurs. On numérote même pas les pastilles preview. Les bonnes surprises du début de saison, deux équipes surprenantes justement dans l'affiche de la semaine, le hypomètre, les cotes et encore un match à Londres. Dis donc, le retour de la NFL à Londres, c'est dans l'émission de ce jeudi et c'est parti.
Actu, analyse, résultat, toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
Giants 6 victoires, 1 défaite, Jets 5 victoires, 2 défaites, Seahawks 4 victoires, 3 défaites, des bilans complètement inimaginables en début de saison, 3 belles surprises de début d'année. On s'y attendait à peu près autant que le soleil et les 30 degrés fin octobre, hein, grosso modo, donc après tout c'est dans le ton. Hein.
Oui, en Normandie ou dans le Var par chez moi, parce que c'est différent.
En Normandie. Alors en Normandie, si tu veux, on est à 20 degrés en octobre, ce qui est l'équivalent de 30 hein, dans le reste de la France, grosso modo. Donc voilà, avec ce dérèglement climatique, on a un dérèglement de la NFL. Lucas, c'est quand même un début de saison complètement surprenant, et évidemment pas que sur la météo. Parmi ces trois équipes, Giants, Jets, Seahawks, laquelle tu voyais au plus bas?
Laquelle je voyais au plus bas? J'ai envie de dire les Seahawks. Je pense avoir fait la preview avec toi, peut-être Raph, des Seahawks en tout début de saison. C'est facile, c'est facilement retrouvable maintenant. Et je pense avoir été très, très dur avec eux, parce que c'est vrai que quand je regardais leur effectif, j'avais beaucoup de mal. Déjà, on va commencer par le quarterback, et ce qui est peut-être une des choses les plus surprenantes. Je ne pensais pas que Geno Smith allait tout simplement être bon, parce qu'il est bon, et j'étais loin de penser qu'il allait être bon. Donc déjà, quand on imagine une équipe partir sans quarterback ou avec un quarterback mauvais, forcément elle recule. Et ensuite, je voyais très peu de talent dans cette équipe-là, que ce soit offensif ou défensif. J'étais très dur avec eux, et chaque semaine en effet ils me prouvent le contraire, parce qu'en fait c'est une équipe qui semble être de plus en plus complète. On en a parlé, des deux côtés du ballon, de plus en plus. Donc je pense que ouais, pour moi ça ne veut pas dire que je voyais les deux équipes hautes, les deux autres équipes hautes, mais celle que je voyais le plus bas, c'était si Seattle.
De mémoire, j'avais dû dire que c'était aussi un prétendant au premier choix de draft ou quelque chose comme ça. Ils avaient 7 victoires l'an dernier, les Jets et Giants en avaient 4, mais comme tu le dis, ils perdent Russell Wilson. Tu te dis, ça sent la fin de cycle, même pour le coach, c'est quand même le coach le plus âgé de la NFL. Tu dis que Geno Smith joue bien, mais il faut quand même se souvenir qu'à un moment, on parlait d'une bataille de roulock Geno Smith en pré-saison.
Et on n'était même pas sûr que Geno Smith allait être le titulaire, parce que ça tendait vers parfois un Drew Lock, ce qui était potentiellement encore pire.
C'est ça. Alors que, et puis Smith, bon, la dernière fois, il avait débuté 3 matchs la saison dernière, il avait lancé 5 touchdowns pour une interception, mais bon, voilà, c'était pas un échantillon gigantesque. Il n'avait pas débuté de match depuis 2017, avant l'année dernière où il en débute 3, mais sinon il n'avait pas débuté depuis 2017 avec les Giants. Un seul match où il avait débuté un match en 2016 avec les Jets, et sinon il fallait remonter à 2014 et 2013, ces deux premières années avec les Jets où il était titulaire. Et c'est des années où ça avait vraiment pas été fameux. 12 touchdowns, 21 interceptions pendant sa saison rookie, 13 touchdowns, 13 interceptions pour sa deuxième année, et puis les Jets avaient fini par l'abandonner. De mémoire, il s'était fait cogner par un de ses coéquipiers aussi. Il y avait eu ça quand il était chez les Jets. Hein.
Oui, aussi, ouais.
Donc, je crois qu'il s'était fait casser la mâchoire ou un truc comme ça.
Enfin, on vit bien.
C'est ça, c'était une histoire quand même assez rocambolesque. Et là, on se retrouve avec des Seahawks qui sont donc pour le plus petit bilan des trois, mais encore une fois, on en attendait peut-être le moins. Et en fait, j'ai l'impression qu'ils se sont renouvelés complètement en une cuvée de draft. C'est-à-dire que pas quasiment tous leurs problèmes, mais la ligne offensive, ils trouvent deux joueurs à la draft. Le coureur, ils trouvent un joueur à la draft avec Kenneth Walker. En défense, ils trouvent Tariq Woolen qui a 4 interceptions et qui est leader en NFL. Encore une fois, je ne vais pas dire qu'ils ont réglé tous leurs problèmes, Lucas, mais cette cuvée de draft, elle est aussi fondamentale, au moins autant que Geno Smith, j'ai envie de dire.
Oui, exactement. Et c'est un peu une constante qu'on va peut-être retrouver dans les autres équipes, c'est que c'est trois équipes qui ont bien drafté, en tout cas qui ont eu des drafts cohérentes et visibles, parce que les rookies sont déjà performants d'entrée. On a souvent tendance à dire, selon les postes, que les rookies sont parfois des projets, surtout quand c'est pas forcément des premiers tours, c'est des projets sur une, deux, trois saisons. Là, c'est des rookies, sont des rookies qui arrivent et qui sont performants d'entrée, tu les as cités, et du coup, ça donne une équipe bien plus surprenante que, ou en tout cas bien meilleure que ce qu'on pensait, et donc surprenante. Et en effet, cette draft-là, elle leur permet d'avoir des pièces un petit peu maîtresses à des endroits qui étaient en plus des problèmes les saisons précédentes, ce qui fait que ces problèmes-là sont, si ce n'est réglés, mais en tout cas vont dans le bon sens. Ça permet à toute l'équipe d'élever son niveau. On rajoute à ça donc le quarterback qui est surprenant et bon, et c'est vrai que ça fait une équipe complète. Bon, après, c'est difficile de bien drafter tous les ans parce que ils sont encore loin de peut-être là où ils aimeraient être ou là où ils ont été par le passé. Mais s'ils draftent comme ça tous les ans, ça va être très bien. Maintenant, ça va être difficile, mais en tout cas, celle-là, elle est réussie.
Tu parlais d'autres équipes. En effet, les Jets, c'est un peu la même chose. Sauce Gardner et Brissy Hall en tête de gondole pour cette draft. Et pour eux, la nouveauté, c'est un peu d'accompagner le quarterback, ce qu'ils ne pouvaient pas faire avec Zach Wilson, l'accompagner dans son développement, on va dire que c'est l'objectif.
Oui, on a l'impression qu'il y a un petit peu un changement de politique du côté de New York, parce qu'on se rappelle, Zach Wilson est drafté très haut il y a deux saisons.
Et
L'an dernier, voilà. Donc il est drafté très haut, et on se dit, quand on drafte un quarterback si haut, c'est le quarterback qui doit porter cette équipe-là. Bon, on a vu que finalement, Zach Wilson, il peut pour l'instant pas le faire. Peut-être que ça viendra, mais pour l'instant, il peut pas le faire. Donc ils ont rapidement changé de fusil d'épaule, entre guillemets, en se disant, bon, désormais, il faut l'entourer, il faut que ça soit l'équipe qui porte le quarterback, et manifestement ils le réussissent plutôt bien avec, comme tu l'as dit, cette draft qui a été réussie aussi avec des joueurs de renom. Brissy Hall malheureusement s'est blessé, mais on a vu ce qu'il pouvait faire. Alors ça sera peut-être l'année prochaine, si tant est qu'il revienne à un niveau physique égal à celui de cette année. Mais il y a Sauce Gardner aussi de l'autre côté. Voilà, c'est toute une équipe qui doit, autour de son quarterback, s'élever, et peut-être que ça va permettre à Zach Wilson de se développer et de devenir le quarterback que les Jets aimeraient qu'il soit. Mais en effet, c'est un changement politique qui, je pense, a été très intelligent et qui a le mérite d'avoir été rapide. On n'a pas attendu 3-4 saisons pour se dire on mise tout sur Zach Wilson et malheureusement on perd 3-4 saisons. Là, on se rend compte que c'est pas le quarterback qui va tout exploser d'entrée, donc on change un petit peu.
La troisième équipe de notre top 3 des surprises, c'est les Giants. Et là, par contre, la physionomie est un peu différente. On a vraiment l'impression que c'est Brian Daboll qui change tout. C'était le coordinateur offensif des Bills. Il débarque. Et là, Daniel Jones perd plus de fumble. Saquon Barkley est plus forte que jamais. Est-ce que c'est tout pour le coach ?
Non, tout pour le coach, je sais pas, je suis pas sûr, et je me trompe peut-être, mais je suis pas sûr que le retour en forme de Saquon Barkley soit à mettre au crédit totalement du coach. Forcément, il y a le coach qui fait que la ligne est meilleure, l'attaque est meilleure, et du coup le running back est meilleur. Mais je pense que, on le sait, les running backs, ils ont parfois des hauts et des bas. Saquon Barkley, il avait commencé très haut, ça a été un peu plus compliqué, et puis il revient en forme. On voit notamment, par exemple, Ezekiel Elliott, qui a été drafté un peu plus tôt que lui. On voit qu'il suit un peu la même courbe de carrière avec des saisons très fortes, et puis des fois des saisons un peu plus compliquées. Je suis pas sûr que le coach ait totalement à voir là-dedans. Par contre, pour le reste, c'est vrai que Brian Daboll est très impressionnant. Je trouve qu'il a donné, une identité, je ne cesse de le répéter chaque semaine, mais une identité à cette équipe-là, que ce soit offensive, tu l'as dit, mais aussi défensive. C'est une équipe, et c'est pas anodin, on l'a dit hier, qui gagne des matchs serrés, et quand c'est récurrent, ça devient, c'est plus de la chance, mais c'est vraiment une identité d'équipe. Et ça, c'est à imputer au coach, très clairement, parce que il a transformé cette équipe-là. Maintenant, après, il va falloir continuer à progresser aussi, mais cette équipe-là, elle est à 6-1. À chaque fois que je le dis, je me dis, mais comment c'est possible? Et pourtant, ils n'ont rien volé.
La question, ça va être de savoir ce qu'on fait de Daniel Jones, parce que tu vas commencer à avoir un dilemme.
Oui, parce que sa cinquième année en option, si je ne me trompe pas, n'avait pas été validée. Donc, ce qui devient un véritable dilemme pressant, urgent. Parce que, en effet, est-ce qu'il fait assez pour se dire que c'est le quarterback du futur? Ou est-ce que, après, le problème, c'est que ils sont partis pour avoir un bon bilan, voire un très bon bilan. Donc, un choix de draft pas forcément très haut. Voilà, c'est vrai que ça va être une vraie question. Ils ont encore un petit peu de temps, mais mine de rien, le temps commence à presser aussi.
Je crains la Blake Bortles. Tu sais, l'année où ils vont en finale de conf, les Jaguars, c'était en 2015 ou 16, je sais plus. Et Blake Bortles, on dit ouais, non, mais vous voyez comme quoi ça peut tenir avec Blake Bortles. Et puis que l'année d'après, c'est une catastrophe et ils réalisent que voilà, c'était pas la solution. C'est vraiment une question compliquée, d'autant qu'il a cette dimension Daniel Jones au sol qui commence à bien utiliser. Donc si tu dis bah Jones, ça va être dans le moule, alors c'est pas du tout comparable, hein, mais dans le moule d'un Lamar Jackson qui va pas être un passeur à 300 yards par match, mais qui va t'apporter cette dimension au sol, et tu te dis oui, nous on va réussir à l'exploiter de la même manière avec Jones. Oui. Bon, pourquoi pas, mais
oui, non, c'est sûr que on imagine souvent, c'est vrai que machinalement on va imaginer que c'est un projet qui va tomber à l'eau, ou en tout cas qui va être décevant. Mais il y a aussi un schéma qui fait que Daniel Jones s'améliore. Il a déjà ses qualités physiques, notamment au sol, tu l'as dit, qu'on a déjà vu d'entrée, et sur lesquelles il peut s'appuyer, et il peut s'améliorer au sol. Après, voilà, j'utilise souvent cet exemple ces derniers temps. On en a déjà parlé ensemble, mais Josh Allen, quand il est arrivé, est-ce qu'il était bien meilleur que Daniel Jones quand on l'a vu la première saison? Il avait un petit peu ces qualités-là aussi. On savait qu'il était très physique au sol, il pouvait lancer. Alors, il était peut-être un peu meilleur, mais en tout cas, c'était un projet sur plusieurs saisons qui s'est développé. Est-ce que je suis pas sûr que Daniel Jones devienne comme Josh Allen, hein, loin de là. Mmh. Je dis pas ça pour ça, mais ce que je veux dire, c'est que les quarterbacks aussi peuvent s'améliorer sur 2-3 saisons. On a tendance à les imaginer arriver et changer le visage d'une franchise dès la première saison, surtout quand ils sont draftés très haut. C'est pas forcément tout le temps le cas, c'est rarement le cas même. Donc on peut avoir un petit espoir, mais c'est vrai qu'il va falloir prendre une décision.
Alors, trois surprises: les Giants, les Jets, les Seahawks. Qui va en playoff?
Les Giants, les Jets, les Seahawks. J'ai envie de dire les Giants, c'est presque assuré. On n'est jamais assuré de rien, mais 6-1. Alors certes, la division est bien plus relevée que ce qu'on pensait, notamment parce que les Giants sont forts. Mais on rappelle que Philadelphia est invaincu, que Dallas tourne plutôt fort aussi. Maintenant, la NFC est quand même pas forcément la plus relevée. On le voit dans les bilans, on en parlera peut-être tout à l'heure à chaque fois dans les bilans, mais il y a de la place. Donc du coup, c'est pour les Giants, je vais dire oui. C'est compliqué.
Les Giants, ils ont toujours pas joué d'ailleurs dans leur division. Ça va être très dense à la fin. Là, ils enchaînent Seahawks, Texans, Lions. Donc il y a vraiment de la place. Il y a un monde où ils sont à 9-1. On l'avait déjà dit dans une autre émission. Derrière, ça va être Cowboys, Commanders, Eagles, Commanders, Vikings, Colts, Eagles. Ouais. Donc je dis une bêtise. Ils ont déjà joué une fois les Cowboys.
C'est leur seule défaite d'ailleurs. Face aux Cowboys. Aux Cowboys sans Dak Prescott d'ailleurs. Je vais dire les Giants quand même, oui. Je vais dire pour les playoffs. Maintenant, le reste, ça pose plus questions quand même.
Moi, je pense que ça va être trop juste pour les deux autres. Mais c'est vraiment des belles années de reconstruction. Tu vois, ils sont à 5 pour les Jets. Mais avec la perte de Breece Hall. Alors, j'aime beaucoup l'échange pour James Robinson. Oui. C'est vraiment une bonne affaire. Après, j'ai peur que ce soit quand même un peu juste. Zach Wilson est quand même un pas en retrait par rapport aux deux autres quarterbacks dont on parle. Ça reste quand même un peu... ça reste un peu plus compliqué pour eux, je pense. Et même chose pour Seattle, où ça va revenir très fort dans cette division, je pense, avec des équipes qui sont quand même un peu plus vétérans, qui vont monter en puissance. Ça risque d'être compliqué. Donc pour moi, ça va être un peu juste pour les deux autres.
Pour moi, c'est oui, Giants, non Jets, pour tout ce que tu as évoqué. Les Seahawks, c'est un gros point d'interrogation. Il y a un monde où ils se qualifient avec la wildcard. Tu parles de la division, certes, qui est relevée, mais en même temps, qui n'a pas prouvé grand-chose non plus aussi, moins que Seattle depuis le début de la saison. Une NFC qui, je le répète, n'est pas forcément hyper relevée. Donc c'est un point d'interrogation, et allez, je vais dire oui pour prendre un risque.
Allez, petit risque. La plus grosse surprise de ce début de saison, on est d'accord que c'est les Giants quand même.
Ouais, hein. Difficile de dire autre chose à 6-1 quand même.
Incroyable. Hein, mais c'est bien d'avoir... J'ai pas à souvenir qu'on ait eu un 6-1 aussi surprenant quand même récemment. Parce que là, 6-1, ça, comme tu le disais, c'est plus un hasard. Quoi.
Oui, et puis au-delà de ça, certes, on dit que cette saison est pour l'instant un peu partie difficilement. Il y a des équipes qu'on annonçait très fortes et qui ne le sont pas particulièrement. Il y a un spectacle qui n'est pas tout le temps au rendez-vous. Mais c'est bien aussi d'avoir des équipes un peu surprenantes qu'on n'attend pas et qu'on voit gagner. Et puis à chaque semaine, presque, on se dit « Oui, bon, là, c'est bon, ils vont pas gagner. » Puis ils continuent de gagner. C'est un peu rafraîchissant. Alors, c'est des équipes qu'on connaît déjà, hein, les Giants, les Seahawks, il n'y a pas si longtemps que ça. Les Giants, quoique, ça commence à remonter un peu, mais il n'y a pas si longtemps que ça, elles étaient bonnes. Mais c'est un peu, c'est rafraîchissant.
Eh bien, on va en reparler justement de ces équipes dans l'affiche de la semaine. L'affiche de la semaine, on a pris évidemment les Seahawks, 4 victoires, 3 défaites, qui reçoivent les Giants, 6 victoires, 1 défaite. On parlait des chances de play-off des Seahawks, justement, ce serait bon de ne pas perdre contre cette équipe de New York. Ces deux équipes sont en position de se qualifier pour les play-offs, ils étaient en play-off ensemble la dernière fois lors de la saison 2016-17. Les Giants ont quand même eu un petit... ils ont réaccroché les play-offs cette année-là, j'étais étonné de trouver ça dans les archives. Mais les voilà donc opposés pour une des affiches les plus surprenantes à ce stade de la saison. Ça va être ultra physique, on va rentrer un petit peu dans le jeu, là on a parlé un peu de ce qui a fait des surprises, mais dans le jeu et dans l'opposition directe, ça va être un match ultra physique, j'ai l'impression, Lucas, parce que les Giants sont la première attaque au sol de la Ligue. La deuxième, pardon, attaque au sol de la Ligue, c'est les Bears qui sont passés devant après leur dernier match. Est-ce qu'ils sont favoris de ce match ?
Est-ce qu'ils sont favoris de ce match ? C'est une bonne question. Ils sont à l'extérieur. Ils n'ont pas perdu un match à l'extérieur de la saison, les Giants. Je crois que leur seule défaite est à domicile face aux Cowboys. En même temps, c'est à Seattle. Est-ce qu'ils sont favoris de ce match ? J'ai envie de dire oui. Ne serait-ce que parce qu'ils ont ce caractère-là dont on parle depuis le début. Ils ont cette capacité à aller gagner des matchs, à trouver des solutions. Il y a cette attaque au sol, pardon, tu l'as dit, qui est très bonne. Si je dois miser, oui, je dirais pour l'instant sur les Giants. Maintenant, je ne suis pas sûr qu'ils soient favoris de beaucoup. Hein.
Non, je crois même qu'ils sont outsiders chez pas mal de bookmakers. Ils ont le meilleur jeu au sol, ils ont aussi la meilleure défense, ils prennent moins de 19 points par match. Ils ont les bases, ils n'ont pas peur des matchs serrés. Leurs 7 matchs se sont joués sur moins d'un touchdown d'écart. Par contre, les Seahawks sont le meilleur quarterback.
Ouais.
Est-ce qu'on peut dire ça ?
Oui, si on peut résumer comme ça. Maintenant, tu parlais de jeu au sol et de défense. Et c'est vrai que d'un côté, aux Giants, ça a été prouvé et on le voit depuis le début de la saison. Du côté de Seattle, c'est un peu plus en difficulté. Maintenant, le dernier match de Seattle a montré que la défense était en progression, le jeu au sol était en progression. Et du coup, si tout ça continue à être en progression, si on y ajoute le fait que le quarterback est meilleur, ça peut donner une équipe bien plus, en tout cas, vraiment complète, difficile à manœuvrer. Alors à voir si Metcalf sera là, parce que je pense que ça peut faire une grosse différence pour Geno Smith notamment, le receveur qui a été un peu blessé la semaine dernière. Mais en fait, je mets les Giants favoris parce que la défense de Seattle et le jeu au sol n'a pas encore assez prouvé. Mais si ça continue sur la même veine que ce qu'on a vu la semaine dernière, ça peut faire une équipe très dangereuse du côté de Seattle.
Geno Smith, c'est 74,1% de passes complétées, 11 touchdowns, 3 interceptions. On le disait, drafté en 2013 par les Jets, donc ça commence à remonter. Mais clairement, ouais, l'avantage pour eux, éventuellement, même alors s'il y a Metcalf et Lockett, clairement, ils ont les meilleurs receveurs, ils ont le meilleur quarterback. Et tu le disais, bah, si leur jeu au sol et leur défense fonctionnent comme au dernier match, il y aura un énorme danger pour les Giants. Les Giants, de l'autre côté, on parlait quarterback, Daniel Jones a progressé sur le point des pertes de balles, on l'a évoqué tout à l'heure, le chiffre c'est 2 ballons perdus seulement en 2022, 2 interceptions, aucun ballon perdu sur fumble, ce qui était quand même une énorme maladie chez lui. Ça va être un bon test parce que Seattle a volé 12 ballons cette année, c'est une des équipes qui vole le plus de ballons. Il n'y a pas à s'en faire, ou est-ce que tu crois que ça pourrait replonger côté Giants ça a l'air d'être du solide pour l'instant, cette tendance.
Oui, c'est du solide. C'est du solide. Maintenant, j'ai aussi envie de voir, on a dit, cette équipe-là, elle a beaucoup de caractère. Et pour l'instant, Daniel Jones, notamment, que j'estime être pas forcément un quarterback encore vraiment poli, mais qui a beaucoup de caractère et de l'extérieur que je trouve être un bon leader, avec du bon leadership. Encore une fois, c'est de l'extérieur. Hein. On joue sur des signaux extérieurs. Mais j'ai envie de voir un petit peu presque comment il gérerait la difficulté. L'année dernière, on voit que ça a été un peu compliqué. Là, cette année, tout va pour le mieux, tu l'as dit, ils perdent pas de ballon. J'ai envie de voir un petit peu comment ça pourrait se passer si il s'avère que dans un match, il perd un fumble un peu tôt. Ça arrive, on le sait, surtout pour des quarterbacks qui courent. Mais il faudrait pas qu'il se mette la tête sous l'eau et que ça soit un match où il en perd 2-3 par exemple. Et je suis presque curieux de voir comment, c'est peut-être sa prochaine progression, de voir comment se passerait un match où il y a une petite erreur, une interception, un fumble un peu rapide, et voir dans la foulée comment le caractère de Daniel Jones se montre. S'il arrive aussi à régler ça, ça peut en effet continuer une belle progression pour lui.
Moi, j'ai envie. Il y a deux scénarios en fait qui m'intéressent dans ce match. C'est-à-dire, soit les Giants se font un peu déborder, ça passe bien du côté de Seattle et ils se retrouvent encore avec un gros retard. Alors, ils ont déjà été menés 17-3 hein, par les Packers du côté de Londres cette année, et ils avaient remonté. Mais les Packers, ça patine. Si Seattle arrive vraiment à prendre le match en main, voir comment cette équipe des Giants réagirait dans un match où ils n'auraient pas forcément le contrôle du tempo, où ça ne serait pas forcément trop serré, ce serait intéressant. Et ce serait intéressant pour Seattle aussi. Le scénario encore plus intéressant pour les Giants, pour moi, ce serait celui où ils maîtrisent vraiment un match de bout en bout, où ils n'ont pas à se faire peur, où ça n'a pas à être serré, parce qu'on l'a vu, hein, contre les Jaguars, ils se sauvent sur la dernière action, contre les Packers, ils sont menés, enfin voilà. Ils ont que la 30e attaque aérienne, avec 161 yards par match. Donc, j'aimerais bien les voir un peu plus complets, un peu plus équilibrés et dominer un match. Ça pourrait être aussi intéressant. Et de ces deux scénarios-là, je ne sais pas lequel peut se produire. Je pense plus que ça va être accroché.
Oui, je pense plus sur un match accroché, en effet, parce que j'ai du mal à imaginer. Et on parlait des blessures de DK Metcalf notamment, mais il y a aussi pas mal de blessures d'absence et d'incertitude sur le jeu aérien du côté des Giants, avec des receveurs qui sont parfois là, parfois absents, qui du coup laisse moins de profondeur pour ce jeu aérien. Et du coup, j'ai du mal à imaginer que les Giants dominent totalement ce match-là, parce que quand on parle de domination, c'est prendre le score très rapidement, créer l'écart de manière assez rapide et ensuite de gérer. Cette équipe-là, malheureusement, elle n'est pas construite comme ça, ce qui donne des matchs serrés, donc ce qui peut parfois aussi donner des mauvaises surprises. Pour l'instant, ils n'en ont pas eu beaucoup, mais j'ai du mal à l'imaginer parce qu'elle n'est pas construite comme ça. Après, oui, voir comment...
Sauf si leur défense provoque des erreurs de Smith ou d'un autre en début de match. C'est presque leur défense, pour moi, qui pourrait leur donner la maîtrise supplémentaire, en fait.
Oui, mais même si la défense donne la maîtrise, c'est sûr, je suis assez d'accord avec toi, mais en même temps, ça, on restera sur des drives longs, construits, de jeu au sol, avec la possession, le temps qui tourne.
Oui, ce sera pas les Bengals. Hein.
Voilà, c'est exactement l'exemple que j'avais en tête de ce 21-0 des Bengals de la semaine dernière. J'ai du mal à les imaginer comme ça. Après, c'est une équipe qui est pleine de surprises, qui progresse et qui pourrait d'un coup peut-être ajouter cette dimension-là à son registre.
Quel pronostic pour toi ?
J'ai dit que les Giants étaient favoris. Je vais avoir du mal à dire autre chose, mais en même temps, c'est vrai qu'on, c'est pas évident en direct comme ça. Allez, je vais dire les Giants. Je vais me lancer sur les Giants.
Les Giants. Je rentre tes pronostics sur la fiche des pronostics en même temps. Oui, tu as ajouté.
Oui, j'ai vu un sourire. Oui, les pronostics, on peut en parler, mais sachez que je suis très bon sur les pronostics, donc n'hésitez pas à suivre.
On va en parler, t'inquiète pas. Voilà. On en parle juste après ce jingle, justement. Je donne les Giants.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Également.
It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special!
It's our night, and it's our division! It's our time to go win it! We're gonna start fast and finish strong!
Yes, sir!
We're gonna work on three! One, two, three, work!
Les pronostics, on va en parler, Lucas, ne t'inquiète pas. Bon, sur celui-là, t'es protégé parce que le leader des pronostics a pronostiqué la même chose que toi.
D'accord. Donc,
tu es couvert sur le Giants Seahawks. Les pronostics, la semaine dernière, en effet, Lucas, tu nous as fait un 8. Oh, c'est pas le plus mauvais score. Raoul et Grégory étaient à 7, Victor à 9, moi-même à 9, Raphaël à 10. Pour le classement général, je vais sur mon petit onglet. Le classement général. Alors, Lucas, c'est un peu dur, en effet, à 55. Tu es à 50,9% de bons pronos. Donc, c'est vraiment 1 sur 2 pour l'instant.
Mais après, si je peux me défendre, en fait, je réfléchissais à ça parce que je me suis douté qu'on allait parler de ça. J'y réfléchissais et je me disais, je vais avoir du mal. Je ne pourrais pas vous livrer des analyses intelligentes, aiguisées, pertinentes et à la fois être bon dans les pronos. J'ai dû choisir entre les deux.
C'est
J'ai
ça.
Choisi le premier. Je vois que dans la rédac, certains choisissent l'autre côté d'avoir des bons pronos et des analyses un peu plus compliquées. Bon, moi
Ouais, t'es en train de dire qu'on a des analyses nazes.
Non, j'essaie juste de me défendre comme je peux, messieurs. J'essaie de trouver comme je peux avec du sarcasme.
Alors, 55 pour Lucas, 58 pour Raoul, 61 pour Grégory, Raphaël et Victor qui sont à égalité, 62. Tout doucement. Je ne fais pas de bruit, je ne me vante pas. Mais je suis premier. Alors, j'ai pas vraiment à me vanter beaucoup parce que 62, ça fait bien. Si je disais 57,4% de bons pronos, ça ferait un peu moins classe. Donc, on va rester sur 62. On va passer au hypomètre et au pronostic de la semaine. Le premier match, donc, c'était l'affiche entre les Seahawks et les Giants. On a tous les deux parié sur les Giants. Quel est le match qui te hype le plus, Lucas, cette semaine?
Ah, je vais partir en NFC. Je vais partir du côté de NFC West, un 49ers Los Angeles Rams. J'ai du mal à passer à côté d'un duel entre Sean McVay et Kyle Shanahan. C'est tellement des coachs qui soit on adore, soit on déteste, j'ai l'impression, ou en tout cas qui attise beaucoup de conversations. Et donc du coup, quand il y a des duels, c'est toujours sympa à voir. En plus, on le sait qu'il y a des récents duels en play-off ou dans des matchs importants. Donc c'est toujours sympa. Ils s'affrontent en plus deux fois par an. Donc c'est toujours très bien. Et puis au-delà de ça, c'est un match qui est pour le coup important. Les Rams sortent de leur semaine de repos. Ils sont sur un bilan équilibré, mais on l'a dit, il faut qu'ils redémarrent vraiment bien. Et puis les 49ers sont en dents de scie depuis le début de la saison. C'est un match qui va attirer beaucoup de regards, je pense, et qui est important pour l'une comme pour l'autre des équipes.
Avec Christian McCaffrey qui va peut-être monter en puissance, c'est un vrai point d'intérêt aussi. Je vous cite, désolé pour le juron, mais je vous cite Sean McVay, sa réaction sur la venue de Christian McCaffrey à San Francisco. Il a dit « Oh merde, ils ont un nouveau joueur de talent en plus ». Voilà. Et il n'a pas tort.
Il n'a pas tout à fait tort, ouais.
Coaché par Kyle Shanahan. Pour mon prono, moi, je vais te dire tout simplement, je suis allé sur les Rams la dernière fois et on m'avait dit, mais tu devrais faire attention, les 49ers, Kyle Shanahan, ils ont le truc contre les Rams. Ils étaient à 6 victoires sur les 7 derniers matchs. J'ai parié sur les Rams. Ça fait 7 victoires maintenant sur les 8 derniers matchs pour les 49ers. Donc, je vais prendre les 49ers cette fois.
Eh bien moi je vais contrer, on se dit qu'une série au plus elle est longue, au plus elle s'approche de sa fin, donc je vais partir sur les Rams.
Les Rams, pour toi après c'est vrai que c'est un super match, super rivalité entre ces deux équipes, donc on le rappelle, les 49ers ont gagné la première opposition cette saison entre les deux. Je vais aller sur le match du jeudi une fois n'est pas coutume, figure-toi que c'était mon premier choix de match à voir cette semaine.
J'ai beaucoup hésité.
Ouais, les Buccaneers contre les Ravens. Le Rams Niners, je l'ai pas dit, c'est dimanche à 21h25. Je vais vous marteler les horaires parce que tout est avec une heure d'avance cette semaine, sauf le match du jeudi, puisqu'il y aura encore eu le changement d'heure. Donc dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h15, il y a un Buccaneers Ravens. Tom Brady avec un bilan négatif, qui risque de tomber à 3 victoires et 5 défaites. Mais en face, il y a quand même des Baltimore Ravens qui souffrent en couverture par moment. C'est pas toujours, mais qui souffrent quand même pas mal en couverture. Là, franchement, je mise sur le réveil des Buccaneers. Dans la rédaction, honnêtement, c'est du Ravens. Alors, on n'a pas les pronos de Greg au moment où on enregistre, mais Ravens pour Raphaël, Raoul et Victor. J'avoue que j'étais étonné.
Ouais, bah parce qu'ils continuent de penser que les Buccaneers peuvent pas régler leurs soucis. On l'a vu, vous l'avez dit aussi, c'est vraiment un petit peu de, c'est de plus en plus inquiétant pour les Buccaneers parce que on voit que cette équipe-là, elle est plus réglée. On l'a dit, dès que Brady est arrivé, il y a eu des réglages très rapides et tout était très réglé. Là, on voit que c'est vraiment, ils sont hors de rythme, notamment Brady qui est le premier à ne plus être trop réglé. Et est-ce que entre dimanche et jeudi, il y a assez de temps pour trouver ces réglages-là, justement? Et arriver à retrouver une attaque qui performe, la question peut se poser. Donc c'est pour ça que j'imagine que on peut miser sur les Ravens. Pour ma part, je vais quand même partir sur Buccaneers parce qu'en plus c'est un match à Tampa Bay et bon, je miserais plutôt. C'est difficile de pronostiquer contre les Buccaneers. Le troisième match, quatrième match, parce que moi je me suis noté troisième match, mais le quatrième match, c'est les Bears Cowboys. J'ai beaucoup aimé la. Oui, ouais, je te vois surpris, je te vois très surpris.
Ah, je l'avais loin celui-là.
Ouais, mais parce que j'ai envie de croire à Justin Fields et j'ai envie de voir je le disais dans le débrief là, hier, de la semaine dernière, que Fields c'est en dents de scie. Et j'ai envie de voir s'il peut continuer, s'affirmer. Il a fait contre une défense qui était réputée correcte face aux Patriots. Là, il va affronter une très grosse défense. Là, elle est pas simplement réputée, elle est très très bonne, la défense des Cowboys. Et j'ai envie de voir s'il est capable d'enchaîner un deuxième match consécutif. Et puis aussi, il y a le côté Prescott qui, on l'a dit, a été bon, il a été correct, on va dire. Mais j'ai envie de voir s'il continue de monter en puissance. C'est une opposition qui m'a. C'est vrai que c'est peut-être un peu surprenant, mais c'est une opposition qui m'a donné envie. Je serai le premier à jeter un petit œil.
Tu me le vends bien. En fait, c'est parce que on m'a un peu dans l'émission débrief dit Fields, c'est un match sur deux, on sait pas trop, etc. Mais je suis content de voir que je suis pas le seul visiblement à y avoir pris un peu d'enthousiasme.
Alors, figure-toi que c'est moi qui t'ai dit Fields, on va voir. Hein.
Voilà, mais, je savais plus.
Oui, non, je te confirme. Mais justement, je disais depuis le début, c'est un match sur deux et il faut. Pour dire qu'on est convaincu qu'il enchaîne. Mais c'est l'occasion. Là, il sort d'un très gros match. Franchement, c'est peut-être le meilleur match de sa saison. J'ai envie de voir s'il confirme. À chaque fois, il nous a déçus, mais peut-être que c'est le moment où, et en plus, s'il le fait contre Dallas, il y aura pas d'excuses pour une équipe. C'était pas face à une défense en carton. C'est une très bonne défense.
C'est dimanche à 18h. Tu pronostiques qui?
Je vais quand même pronostiquer Dallas, mais je vais regarder attentivement Justin Fields, mais ça sera les Cowboys pour moi.
Il s'agit de gagner des points quand même, Cowboys pour tout le monde. Les Bills contre les Packers pour moi, parce que j'ai un très mauvais esprit. C'est dans la nuit de dimanche à lundi à 1h20 du matin. Et Aaron Rodgers a dit que personne ne les donne favoris contre Buffalo et que ça tombe bien, c'est exactement ce dont ils avaient besoin. Là, il multiplie les déclarations. Il faudrait peut-être qu'il passe moins de temps devant un micro, Aaron Rodgers, parce que je suis pas sûr qu'il se fasse que des amis dans le vestiaire. Là, je sais pas si t'as vu, il disait carrément que les joueurs qui font des erreurs, il faudrait qu'ils aient moins de temps de jeu et qu'ils aillent sur le banc. Quoi.
Le bon management à la...
Voilà.
C'est
un peu bourrin, mais bon, c'est pas comme ça que ça va leur donner plus confiance. En tout cas, ils vont jouer des Bills qui sont l'équipe qui encaisse le moins de points dans la ligue et qui sont deuxième sur les points marqués. Donc voilà, moi j'ai envie de voir comment ça va se passer pour les Packers. Bon, c'est compliqué de les imaginer bloquer suffisamment Buffalo et surtout de suivre le rythme vu le rythme de l'attaque de Green Bay actuellement. Donc je vais pronostiquer les Bills. Et peut-être qu'on verra en plus, je sais pas moi, Aaron Rodgers arracher la tête d'un de ses receveurs sur le banc de touche ou quelque chose comme ça. Donc ça peut être, il y a un potentiel fun dans ce match.
Après, s'il faut enlever et supprimer le temps de jeu de certains qui font des erreurs, il va plus avoir grand monde du côté de Green Bay sur le terrain.
C'est un peu le problème.
Mais c'est vrai que c'est difficile de les imaginer en train d'arrêter, comme tu l'as dit, Buffalo qui sort d'une journée de repos, d'une semaine de repos en plus, qui est un spoiler alert, même si l'article sortira un petit peu avant, puisque vous aurez le podcast jeudi, mais les Bills qui sont premiers du power ranking depuis le début de la saison, je vois pas grand chose pour les Packers. C'est vrai que celui-là, je l'avais un peu plus bas parce que pour moi, ça sera un match à sens unique.
Bills pour tout le monde.
Ouais, ça sera Bills pour moi.
En fait, pour le power ranking cette année, en gros, toutes les semaines, tu fais Bills Chiefs et puis après tu commences quoi.
Ah, tu as Bills Eagles Chiefs.
Ah oui, Bills Eagles.
Ouais, quand même, je respecte une équipe qui est invaincue.
Okay.
Bills Eagles. En fait, les Chiefs ont perdu un match qui les a fait repasser derrière les Eagles. Et j'avais du mal à les faire remonter, c'est sachant que les Eagles sont toujours pas perdus. Donc c'est vrai que c'est Bills Eagles Chiefs et puis après on commence le power ranking.
On enchaîne avec le match suivant pour toi.
Le match suivant pour moi, ce sera Cardinals Vikings. Qui est un match aussi qui m'intéresse parce que c'est des matchs qui peuvent partir d'un côté comme de l'autre. On enchaîne sur les équipes qui sortent d'une semaine de repos. Les Vikings sortent d'une semaine de repos. Les Vikings qui sont à 5-1, qui gagnent aussi des matchs un peu serrés. Les Cardinals qui auront 10 jours de repos parce qu'ils ont fait un bon match contre les Saints, c'était jeudi. Et j'ai envie de voir comment ce match, dans quel sens ce match-là peut aller. Est-ce qu'il y a une équipe qui peut aller gagner un match contre les Vikings qui ressemble pas à grand chose mais qui continue de gagner et qui prennent confiance? C'est une opposition qui m'intéresse.
Pour moi, c'est l'équivalent footballistique de la loterie, hein. C'est-à-dire que tu peux pas faire un match plus imprévisible que ça, mais même d'une action à l'autre, quoi. C'est-à-dire que ça va avoir l'air Hall of Fame pendant deux minutes avec Cousins et Justin Jefferson. Ils vont faire des punts trois fois de suite derrière. Les Cardinals, pareil.
C'est d'une action à l'autre, d'un carton à l'autre. On le sait que c'est des équipes qui ont du mal à faire des matchs complets, que ce soit l'une comme l'autre. Et donc du coup, j'ai plutôt tendu vers des matchs qui me paraissent déjà difficilement pronosticables, même si pour moi il y a tout qui est un peu difficile à pronostiquer. Mais surtout des matchs dont on a du mal à imaginer le scénario, et ça, c'est pour moi, c'est assez intéressant.
Clairement, si vous n'avez pas d'équipe de cœur à 18h dimanche, The Vikings Cardinals, il peut être intéressant. Après, il peut finir à 43-38 comme il peut finir à 10-12.
Exactement.
Ça peut être n'importe quoi. Je vais prendre les Vikings dans ces conditions-là. Tu prends qui?
Pareil, les Vikings.
Les Vikings. J'enchaîne avec les Jets et les Patriots. Les Jets avec James Robinson, on l'a dit, j'aime beaucoup ça. Ils vont continuer à être fidèles à leur jeu au sol. Il y a toujours Carter qui va être là pour l'épauler. Ceci étant dit, Bill Belichick contre Zach Wilson quand même. Alors, il n'a pas réussi à avoir la peau de Justin Fields. Et justement, je me dis qu'il va se venger sur Zach Wilson. Il y a aussi la polémique, parce que mine de rien, il y a la polémique au poste de quarterback maintenant des Patriots. C'est un match qui est quand même plein d'intérêt, quoi. Est-ce qu'on va voir Mac Jones? Est-ce qu'on va voir Bailey Zappi? Est-ce qu'il y aura blessure diplomatique pour Mac Jones? On dira sa cheville est parmi, ils ont fait jouer Bailey Zappi. Est-ce qu'on dit non, mais on n'a jamais voulu faire jouer Zappi et Mac Jones va mieux? Ça, déjà, ça va quand même être un truc. Et puis, de voir, encore une fois, si Robinson... Il fera peut-être pas exactement ce que faisait Brice Hall, mais est-ce que Robinson peut apporter un minimum pour maintenir cette attaque dans les mêmes schémas et pas mettre trop de pression sur Zach Wilson, comme on le disait? Ça va être intéressant aussi. C'est dimanche à 18h, je prends les Patriots.
Eh bien, je vais prendre les Patriots aussi, parce que j'ai l'impression que les Patriots, c'est une semaine oui, une semaine non. On était sur la semaine non, ça sera certainement une semaine oui pour moi.
C'est un peu comme ça que je le voyais aussi. Je les vois mal laisser filer plusieurs fois comme ça des matchs. Je n'arrive pas à le trouver, mais je vais mettre ton pronostic, vous, à la Patriots.
Et moi, dans la foulée, je vais prendre le prochain match. Pour moi, ce sera Raiders New Orleans Saints, qui était un match que j'avais au-dessus de celui que tu viens de citer. Encore une fois, pareil, les Raiders m'ont plutôt enjoué sur leur dernier match, notamment offensivement. On l'a dit, Josh Jacob a été très bon. Derek Carr n'a pas été obligé de tout faire et de prendre trop de risques. Il y avait une attaque très équilibrée. J'ai envie de voir face à une défense des Saints. Alors certes, qui a pris beaucoup de points, mais qui, on le sait, a quand même l'habitude d'être quand même solide. J'ai envie de voir si laquelle de ces deux escouades-là va prouver. Est-ce que c'est les Saints qui vont revenir à leur solidité défensive dont on connaît, ou est-ce que c'est les Raiders qui vont continuer leur progression offensive? C'est un match intéressant.
C'est un match hyper intéressant. Les Raiders, c'est 32, 29 et 38 points sur leurs trois derniers matchs. Donc ils sont à 2-4, mais avec Saints, Jaguars, Colts, Broncos à suivre, franchement, ils sont pas perdus. Je pense que vraiment, il faut qu'ils soient à fond là-dedans. Max Crosby, ça reste une attraction défensive. Je l'avais plutôt... je le trouve hyper intéressant aussi, celui-là. C'est à New Orleans, c'est à 18h, c'est pas un horaire très habituel pour les Raiders, mais je vais prendre les Raiders quand même.
Ouais, ce sera Raiders pour moi aussi.
Les Colts contre les Commanders, pour moi, dimanche à 21h05. Sam Ehlinger, nouveau quarterback des Colts, c'est un peu ça, hein, l'intérêt pour moi, parce que ces deux équipes qui sont un peu brouillonnes très souvent depuis le début de l'année, mais voilà, c'est un peu confus, hein, l'annonce de Sam Ehlinger titulaire. Au début, on nous dit il y a blessure à l'épaule pour Matt Ryan. En fait, non, c'est pour l'année. Bon, très bien. Donc Sam Ehlinger, sélectionné au 6e tour en 2021, 1m85 pour 101 kg, pour ceux qui ne le connaissent pas. J'adore toujours donner les dimensions. Je fais exactement la même taille que lui. Je pense que si je faisais 101 kg, il ne serait pas réparti de la même manière. C'est un énorme pari quand même, parce qu'ils sont à 3 victoires, 3 défaites, 1 nul. Donc ils ne sont même pas en négatif, ni en positif, évidemment. Merci le match nul. Donc ils sont en course pour les playoffs en AFC. Alors, j'ai cru comprendre que le contrat de Matt Ryan n'avait pas mal joué aussi, parce qu'en fait, en cas de blessure, vu qu'ils ont eu l'air de se dire, bon, ça va pas être le gars qu'il nous faut pour cette année ni pour l'année prochaine, et s'il se blessait, en fait, il lui devait 8 millions garantis pour l'année prochaine ou quelque chose comme ça. Donc ça a peut-être joué aussi dans la décision de le sortir du terrain à partir du moment où tu te rends compte qu'il fera pas mieux que les autres. Bon, c'est un énorme pari. Ils ont perdu 14 ballons, les Colts, depuis le début de la saison. Donc, je pense que la mission première des Lingers, c'est ça, c'est de stopper l'hémorragie.
Oui.
Et ce sera intéressant.
Je dois avouer l'avoir en dernier dans ce hypomètre pour moi, mais en effet, tu me l'as plutôt bien vendu. C'est vrai qu'il y a ce nouveau quarterback. Et puis même de l'autre côté, il y a Taylor Heinicke. Est-ce que ça va être le sauveur de Ron Rivera un petit peu? Parce que, on le sait, Heinicke avait déjà fait des intérims et qui avait bien commencé souvent et un peu fini un petit peu de manière un peu plus compliquée. Là, les Commanders c'était en grande difficulté. Le quarterback change. Il fait un bon match la semaine précédente. Est-ce qu'il va continuer sur sa lancée là? Et parce que je dis sauver Ron Rivera parce que c'est il y a rien d'officiel, mais bon, pour moi il est un petit peu sur la sellette. C'est un des coachs qui est sur la sellette si ça se passe mal cette saison. Donc est-ce que ça peut continuer comme ça? C'est vrai que ça peut être intéressant.
Alors moi je prends les Commanders. Quand même, parce que j'ai jamais vu jouer Ellinger quasiment, donc c'est aussi ça, quoi.
Oui, pareil pour moi, du mal à imaginer comment ça peut jouer avec Ellinger, et puis surtout pas particulièrement confiance au coaching staff ces derniers temps, donc ce sera les Commanders pour moi aussi.
Ouais, t'as raison, on va plus appeler ça le hypomètre, on va appeler ça on vous vend les matchs. Tu vois, genre, quelque chose comme ça. Vends-moi le match. Pitch-moi le. Ah ouais, on va faire une émission un peu LinkedIn. Pitch-moi ce match. Fais-moi un elevator pitch.
Alors, cher réseau, pour moi, le prochain match, ce sera Bengals-Browns. Est-ce qu'il faut que je mette des mots anglais aussi un petit peu dedans?
Non, c'est, on va essayer de rester.
Non, mais.
Non, je vais, tu sais, comme José Mourinho, quand on parle de LinkedIn, genre, je vais rien dire, sinon je vais avoir des problèmes.
je vois exactement. Non, mais ce Bengals Browns aussi, qui peut, déjà, duel de division, forcément, les duels de division sont toujours un peu particuliers, et dans certaines divisions plus que d'autres, l'AFC Nord en fait partie. Et puis, j'ai envie de voir si les Bengals continuent leur retour aux Bengals saison 2021. On l'a dit, ils ont eu du mal à commencer, et puis la semaine dernière. Alors certes, c'était face à une équipe des Falcons qui était en difficulté, mais ils commencent leur match de manière incroyable et ils ralentissent un peu. Mais voilà, c'est toujours excitant à voir jouer. Et quand ils jouent de cette façon-là, ça donne des. Alors si ce n'est des super matchs, ça donne de très belles actions. Jamar Chase est quand même un des joueurs les plus excitants à avoir joué. Joe Burrow, pareil. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Et puis de l'autre côté, essayer de voir si Cleveland peut mettre la pression sur cette ligne offensive des Bengals, parce que les Falcons n'ont pas réussi à le faire. Est-ce qu'ils peuvent réussir à le faire? J'ai du mal à y croire, mais pourquoi pas?
Les Browns autorisent 7,5 yards par passe tentée, c'est le pire total, la pire moyenne de la ligue. Donc contre Jamar Chase, T. Higgins, Tyler Boyd.
Oui, et puis il y a beaucoup d'incompréhension parfois depuis le début de la saison. Grant Delpit est en difficulté. Ouais. Il y a des joueurs qui sont en difficulté. À minima, ça peut donner de super actions et des touchdowns de 80 yards.
Donc moi, sur cette stat, je donne Bengals.
Pareil.
C'est le match du lundi soir, donc ce sera à 1h20 du matin dans la nuit de lundi à mardi. Eagles-Steelers, pour moi, les Eagles, quand même, la dernière équipe invaincue. On les a pas encore vus dans ce classement. Dimanche 18h, c'est le retour de la dernière équipe invaincue. Alors forcément, le challenger en face est un peu en difficulté. C'est toujours compliqué pour Kenny Pickett. Pittsburgh n'a pas passé les 23 points cette année. Alors, les Eagles n'ont pas... Moi, je le résume à ça, hein. Pittsburgh n'a pas passé les 23 points cette année. Les Eagles n'ont qu'un seul match à moins de 24 points.
Oui, ben forcément, du coup, c'est compliqué.
Donc la barre, grosso modo, elle est là. Est-ce que Pittsburgh peut marquer plus de 24 points? Sur ce match-là, ça me semble compliqué, donc je vais donner les Eagles.
Oui, pareil. Alors après, j'aimerais bien aussi voir les Eagles. Ils font des très bons matchs, mais est-ce qu'ils arrivent à faire un match du début à la fin? On le sait que régulièrement, c'est souvent une mi-temps ou l'autre, même si ça reste globalement un niveau très bon hein, pour être invaincu. Mais j'ai bien envie de les voir faire un match complet du début à la fin, quitte à ce que ça soit un blowout, mais ça peut donner confiance. Mais ça sera les Eagles pour moi aussi.
Vu les difficultés un peu de Pittsburgh sur les lignes, en plus il y a une occasion hein, pour Philadelphie de faire un match un peu tranquille.
Pour enchaîner, alors on arrive forcément sur les matchs les plus bas, mais il y aura Dolphins-Lions pour moi. Dolphins Lions, les Dolphins qui avec Tua Tagovailoa avaient bien démarré aussi la semaine dernière et puis c'était un peu plus compliqué. Les Lions, difficile à comprendre un petit peu cette équipe là. On a commencé en se disant que c'était une énorme attaque mais une défense un peu plus compliquée. Puis finalement la défense va un peu mieux. Hutchinson commence à sortir un peu de son trou, mais l'attaque est un peu plus en difficulté. Miami qui provoque pas particulièrement de pertes de balles, mais qui cette semaine en a provoqué, je crois, trois interceptions sur le match, du côté des Lions qui ne perdaient pas beaucoup de ballons mais qui en a perdu 5. Ça peut être un match qui peut aller dans tous les sens. Je pense que les Dolphins vont le gagner parce que foncièrement ils ont plus de talent, mais je pense que c'est un match qui peut partir un petit peu dans tous les sens avec des pertes de balles ou un petit peu à l'image de ce qu'on disait sur les Cardinals Vikings, un match difficile d'imaginer le scénario qui peut changer, un scénario qui peut changer d'un quart temps à l'autre, et c'est toujours sympa à voir.
Oui, après ça peut aussi être un match où Tua Tagovailoa se remet dans le rythme, quoi.
Bah, en fait, Tua Tagovailoa, il a eu un match un peu particulier. On s'imaginait que quand il revenait, il allait monter en puissance. Et là, il est un peu descendu en puissance, si je puis dire.
Oui, c'est vrai.
C'est qu'il a bien commencé, puis il a un peu mal fini. Alors après, il y a eu une bonne adaptation. On l'a dit hier des Steelers, donc ça y joue aussi. Est-ce que Dan Campbell est capable d'être aussi bon que Mike Tomlin? Je suis pas sûr. Mais c'est pour ça que Tagovailoa, c'est vrai que c'est une question.
Ce sera Dolphins pour moi. Les Lions ont marqué que 6 points sur les deux derniers matchs. Tua Tagovailoa qui revient, la défense des Lions. Je pense quand même que... On n'est pas à l'abri d'un réveil offensif de Détroit. Hein. Ça peut être la surprise de la semaine et puis il se réveille d'un coup. Ça dépend aussi de si Swift et Saint Brown sont de retour. Je crois que Saint Brown était dans le protocole commotion, mais sans avoir vraiment une commotion cérébrale. Donc il devrait être de retour. Après, il faudrait que Swift soit de retour aussi. Donc on n'est jamais à l'abri avec eux, mais j'irai sur Dolphins quand même.
Oui, pareil.
On n'a pas encore parlé du match à Londres. Essayons de trouver des motifs de s'enthousiasmer pour les gens qui vont à Wembley dimanche à 14h30. Les Jaguars reçoivent à Wembley les Broncos. 14,3 points par match, c'est la moyenne des Broncos qui ont la pire attaque de la ligue. C'était dur à croire cet été, on parlait des surprises dans le bon sens, on parlera des surprises dans le mauvais sens dans deux semaines, hein. On vous spoil un peu le programme, mais... Voilà, Brett Ripien devrait être le quarterback, a priori. En tout cas, Russell Wilson n'est pas opérationnel encore au moment où on enregistre. Est-ce qu'ils vont lui faire traverser l'Atlantique en plus? On sait que les heures d'avion, c'est pas toujours bon pour les blessures et la récupération. Donc, Brett Ripien, a priori, et honnêtement, le pire, le plus triste, c'est que même avec Russell Wilson, de toute façon, c'était pas incroyable. Bon, le motif, honnêtement, de se déplacer à Wembley, c'est les Jaguars, parce qu'il y a Trevor Lawrence, il y a Travis Etienne, il y a quand même quelques joueurs... Alors, ce sera pas un modèle de match constant, complet, avec une exécution parfaite, une équipe qui déroule. Mais bon, ça peut voir des coups d'éclat de Laurent et Etienne. J'ai envie de dire rien que pour ça, Lucas. Déjà, rien que pour ça, ça devrait leur permettre de marquer plus de points que les Broncos.
Oui. Bon, déjà, rien que parce que c'est un match à Londres et que c'est toujours une ambiance un peu particulière. C'est un match qui est forcément un peu plus tôt aussi. Mmh. Donc, c'est toujours sympa à regarder quand les matchs sont isolés et quand ils sont en plus pas forcément à 2h du matin. C'est appréciable pour le coup. Au-delà de ça, je suis pas d'accord. T'es un peu dur. Enfin, t'es dur avec les Broncos. Offensivement, c'est sûr que c'est quasiment catastrophique, mais la défense est très bonne, je le répète, franchement
c'est vrai.
Et du coup quand on aime les défenses, alors c'est pas toujours le plus spectaculaire, mais quand on aime les défenses, c'est toujours sympa à regarder quand même, c'est franchement je pense qu'on le dit pas assez, parce que c'est une équipe qui, mais c'est une des meilleures défenses de la ligue, je pense, qui est vraiment pas aidée par son attaque, qui doit, mais pour le coup on avait cette inquiétude là de Nathaniel Hackett, on se disait il va faire exploser cette attaque là parce que il y a tous ces joueurs, mais par contre la défense on perd le génie défensif du coach précédent, et donc du coup Nathaniel Hackett va avoir du mal. Pour le coup c'est totalement l'inverse, mais c'est vrai que cette défense là elle est sympa à regarder, et si j'ai envie de tenter un coup, je vais dire les Broncos, parce que je vois une équipe des Jaguars qui est inexpérimentée, qui peut tomber dans un piège face aux Broncos, et c'est sûr que les Broncos vont pas marquer 27 points et gagner le match 27-24, mais pourquoi pas un match gagné 16-13 ou 19-16 ou quelque chose comme ça.
Jaguars, Broncos, ce sera Jaguars pour moi. Et ce sera peut-être le point, tu es seul contre tous, le point du début de la remontée.
Ou le point qui
c'est
continue.
C'est le alors peut-être.
Non,
c'est
le alors peut-être, il y en a toujours un ou deux par semaine, et c'est souvent ce point-là qui continue de creuser ma tombe et qui fait que je suis à moins 6, moins 7, moins 12, moins 20.
Il nous reste Texans Titans et Falcons Panthers.
Eh bien, je regarde ma petite fiche et j'ai mis les Panthers Falcons avant. Ça s'est joué pas de beaucoup, mais Panthers-Falcons, les Panthers qui viennent de battre Tampa Bay quand même. Alors certes, Tampa Bay est pas dans le coup, mais ils les ont battus tout de même. Et face, encore une fois, duel de division, et face aux Falcons, qui eux ont été un peu plus en difficulté, mais qui ont des hauts et des bas, ça peut être un match qui sera, à mon avis, pas particulièrement spectaculaire, parce que c'est deux équipes qui misent beaucoup sur la défense et beaucoup sur le jeu au sol notamment. Mais ça peut être très sympa à observer en termes de jeu au sol, parce que les deux coachs sont obligés par la force des choses d'être créatifs dans ce secteur-là, et je pense que ça fait partie des deux coachs les plus créatifs dans ce secteur-là, et ça va être sympa à voir, je pense.
Les deux équipes vont jouer deux fois en trois semaines, et c'est intéressant parce que c'est deux équipes en pleine transition avec des... Bon, après, moi je vais aller sur Atlanta est quatrième au sol, les Panthers sortent d'un très gros match dans le domaine, j'aurais quand même un peu plus confiance dans la polyvalence de... c'est un bien grand mot, mais de Carolina. Même Greg le disait, maintenant Atlanta est vraiment attendu quoi, au sol, et on sait qu'il n'y a pas grand chose dans les airs, donc je vais regarder ça quand même. Et puis pour la défense de Carolina, qui a quelques beaux joueurs, donc je vais donner les Panthers.
Moi aussi je vais donner les Panthers, et je dirais que j'ai envie presque de dire que la première équipe qui marque gagne dans ce match là.
C'est tout à fait possible. On va terminer avec Texans et Titans, c'est dimanche à 21h05. Les Titans qui sont leaders de leur division, qui vont courir, qui vont défendre. J'ai l'impression que les Texans vont essayer de faire la même chose, mais en un peu moins bien. C'est-à-dire que c'est un peu le même modèle, mais en un peu moins bien.
Oui, c'est vrai que c'est une équipe qui est construite globalement de la même façon, mais qui est un peu plus loin dans sa construction, ou un peu plus tôt, si on peut dire. C'est-à-dire que c'est une construction qui démarre, là où les Titans, ça fait déjà plusieurs saisons qui sont sur ce modèle-là. Ils ont eu des matchs et ils ont eu des saisons où ils ont pu confirmer. Et puis surtout, quand on a un jeu au sol, c'est toujours mieux d'avoir Derrick Henry, même si il fait pas encore la saison de l'année dernière, mais ça commence à prendre quand même forme. Donc le meilleur joueur, même si Damon Pierce fait une très belle saison rookie, mais bon, il est pas encore au niveau de Henry, je pense. Mais ça peut être sympa, ce duel-là entre les deux running back, un peu. Est-ce que ça peut être une passation de pouvoir? On en est loin encore peut-être, mais ça peut être sympa.
Beau duel de coureurs, Titans.
Beau duel de coureurs, Titans. Pardon, je réfléchissais, mais en effet, c'est assez logique.
On a deux équipes pour Paul, les Chiefs et les Chargers. Je vous redonne le programme complet. Ça commence dans la nuit de jeudi à vendredi à 2h15, Buccaneers-Ravens. Et dimanche, tout est avancé d'une heure. Je vous le rappelle, tout est avancé d'une heure. 14h30, ça va commencer très tôt. 14h30, Jaguars-Broncos à Londres. Le fauteuil donc est à 16h30. Je vous le rappelle, 16h30 pour le fauteuil. Et ensuite, à 18h, vous avez Falcons-Panthers, Cowboys-Bears, Lions-Dolphins, Vikings-Cardinals, Saints-Raiders, Jets-Patriots-Eagles-Steelers. 21h, Texans-Titans, Colts-Commanders, Rams-49ers, Seahawks-Giants. 1h20 du matin dans la nuit, et je vois que j'ai oublié de corriger le 2h sur le site, il faut que je le mette à jour. 1h20 du matin, Bills-Packers, et dans la nuit de lundi à mardi, encore à 1h20, Browns-Bengals. Une seule semaine de décalage, les Américains passeront à l'heure d'hiver dans la nuit de la semaine d'après, donc on reviendra à tous les horaires normaux en semaine 9. Voilà pour les pronos, on termine avec les codes de notre partenaire. Je corrige en temps réel la page du site. Clic, clac, et hop, c'est fait. Les pronos et les cotes, pardon, avec notre partenaire Unibet. Lucas, est-ce que tu as des cotes qui t'intéressent? Je vois que si tu crois vraiment aux Broncos, ils sont outsiders.
Oui, bah c'est en effet... j'ai vu les cotes, je les aurais imaginés un peu plus outsiders que ça, mais on est à, je crois, 2-0-6. C'est vrai que c'est pas mal. C'est pas mal. Après, il y a des matchs où c'est presque du 50-50, notamment au niveau des cotes, et je pense que c'est vers ces matchs-là qu'il faut tenter sa chance, notamment jeudi par exemple, avec
On fait pas le jeudi d'habitude parce qu'il est un peu tôt. Là, il y a des gens qui auront peut-être déjà le résultat, mais après, pour aller dans ce que tu dis, la cote du Rams 49ers par exemple, si t'as une vraie conviction sur une des deux équipes, les Rams sont 1,89, les Niners sont 1,75.
Clairement, c'était l'autre match aussi que j'évoquais, enfin auquel je pensais quand je disais des 50-50, ces deux matchs-là. Moi, je suis parti sur les Rams, mais c'est vrai que ça peut être, pour moi, c'est le genre de match qu'il faut pronostiquer. Ouais.
Ouais, moi j'ai donné les Niners dans la vidéo de la semaine. Les Raiders, c'est 1,70 non contre les Saints, ça me paraît pas mal.
Les Raiders, c'est 1,70 contre les Saints, oui, aussi, c'est quelque chose qu'on peut, notamment dans un combiné.
Alors, allons-y sur les Raiders à 1,70. Les Giants à 2,16 contre les Seahawks, moi ça me parle bien, ils sont à 6,1. Ils sont outsiders, les Seahawks sont à 1,57.
C'est pas loin d'être là, j'allais dire non, la cote la plus élevée, il y a des cotes qui sont quasiment injouables.
T'as les Packers et les Steelers, ouais, qui sont...
Mais parmi les jouables, c'est vrai que c'est certainement la cote la plus élevée à jouer, ouais.
Donc 2-16 pour les Giants, 1-70 pour les Raiders. On met qui en troisième du coup? Les Broncos, moi j'avoue que j'ai du mal à oser mettre...
J'imagine, après on n'est pas d'accord sur Los Angeles Rams et 49ers forcément. Mais...
Les Titans à 1-68?
Les Titans à 1-68, oui aussi, c'est, je ne veux pas dire que c'est donné, mais c'est jouable.
C'est jouable, oui, il n'y a rien de donné, ouais, hein, on rappelle clairement. Évidemment, jouer de manière prudente. Giants 2-16, les Raiders 1-70 et les Titans 1-68, ce sont nos trois cotes de la semaine. Vous pouvez évidemment les jouer en simple, et si vous voulez jouer en combiné, là par exemple, c'est 5 euros misés, 30,84 euros de gain potentiel. Je ne sais plus si c'est celui que j'ai joué dans l'émission en direct l'autre jour, ou si je l'ai joué dans le fauteuil en direct, mais j'ai passé mon combiné la semaine dernière, j'étais très content. Le YOLO. Est-ce qu'on va jusqu'à faire les grands fous malades à genre jouer les Packers à 4,80, tu vois? Ça me paraît un peu extrême.
Ouais, c'est un peu extrême. Non, j'en ai vu un autre, le YOLO. Est-ce que c'est assez YOLO pour toi? Mais les Commanders à 2,14 face aux Colts,
c'est bien ça.
C'est pas mal. Ouais. C'est surcoté, si on peut le dire. Donc, les Packers contre les Bills, j'ai du mal quand même. Je veux bien que ça soit du YOLO, mais...
Les Panthers à 2,58.
Les Panthers à 2,58 aussi. Aussi, là on commence à avoir quelque chose d'intéressant. Encore une fois, je disais de jouer de manière réfléchie, surtout ne m'écoutez pas, hein, que je vous ai dit, c'est les je suis très mauvais en pronostic, donc je ne comprends pas la personne qui va m'écouter mettre de l'argent sur ce que je dis, mais bon, je le fais quand même.
Alors attends, on termine avec qui? Les Cardinals qui tapent les Vikings par exemple? Ça c'est des matchs YOLO quoi.
Ah oui, les Cardinals, j'ai pas la cote devant moi, mais...
Eh ben écoute, c'est un 2,44.
Ouais, voilà, très bien.
Donc, sans aller dans les fous malades Packers à 4,80 et Steelers à 4,20, qui sont quand même très improbables puisqu'ils jouent les Bills et les Eagles, hein, je vous rappelle. On va se faire un YOLO soft, j'ai envie de dire. Donc, on garde les trois premières, Giants 2,16, Raiders 1,70, Titans 1,68. Et les Commanders qui battent les Colts à 2,14, les Panthers qui battent les Falcons à 2,58 et les Cardinals qui battent les Vikings à 2,44. Et j'ai envie de te dire, honnêtement, il est pas si YOLO que ça, c'est-à-dire qu'en dehors des Cardinals, tous les autres, je les ai joués dans mes pronos.
Oui, voilà. Et puis, on voit aussi que cette année, la NFL, des fois, les Panthers face aux Buccaneers la semaine dernière, ça devait être une cote assez sympa. Donc...
Oui, c'est clair. Alors, tu sais, donc là, 5 euros misés, 446,31 euros de gain potentiel sur le YOLO. Moi, je vais retirer les Cardinals et je vais jouer les 5 autres, puisqu'ils sont dans mes pronostics. Je vais mettre 3 euros. Ça fait 107,13 euros de gain potentiel. Donc Giants, Raiders, Titans, Commanders, Panthers.
Ça part de là.
Voilà, on va tester là. 3 euros. J'ai passé des combinés ces dernières semaines. Alors je... Hop là, voilà. Et ben voilà. Donc c'est placé pour celui-là.
Je me demandais qui était quelqu'un qui pouvait être assez fou pour suivre ce que je disais sur les pros dans les cotes. Mais bah, apparemment, il y en a un avec moi puisque tu as écouté un petit peu ce que j'ai dit et tu vas mettre de l'argent. Oui, c'est vrai. Mais les cartes, c'est toi qui les avais proposées.
Ouais, j'ai retiré les Cardinals. J'ai mis Giants, Raiders, Titans, Commanders, Panthers. Écoute, on verra bien ce que ça donne. Et on vous rappelle en effet qu'il faut jouer de manière raisonnable. Vous faire aider si vous sentez que vous perdez le contrôle. Le numéro, c'est 09 74 75 13 13. N'hésitez pas, évidemment, en cas de problème. Merci beaucoup, Lucas.
Un plaisir.
On se retrouve très bientôt.
Oui, très peut-être bientôt.
Je crois que... peut-être un débrief.
Voilà, quelque chose. Je serai dans le coin, les amis. Je serai dans le coin.
Merci encore à toi d'ailleurs d'être si souvent dans le coin, Lucas. On vous remercie de nous écouter, on vous remercie si vous nous soutenez sur Tipeee. Il y a des sous-verts années 80 qui sont là, il y aura peut-être des nouveautés bientôt, mais en tout cas il y a les sous-verts années 80 pour l'instant. On vous remercie de nous soutenir pour les réseaux sociaux, vous avez l'habitude, à TD Actu sur Twitter, sur Facebook et sur TikTok. Instagram, c'est Touchdown Actu en entier, à tel vola pour Lucas sur Twitter, à talamatei pour moi-même. Toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Je vous rappelle aussi qu'il y a un épisode d'Occupation qui est sorti, consacré à un conseiller funéraire. Si vous êtes intéressé par ce métier, ou en tout cas si vous êtes curieux, n'hésitez pas à aller jeter une oreille. C'est Occupation au pluriel sur toutes les plateformes de podcast. Fin de la petite page auto-promo. Désolé pour cette intrusion publicitaire. Non mais avant, je mettais des spots en pré-roll, mais je pense que c'est beaucoup plus invasif pour les gens, donc je vous évite les spots en pré-roll et je dis un mot de temps en temps dans l'émission. Voilà, c'est un peu moins bourrin, je trouve. Merci beaucoup, Lucas, encore une fois. On vous retrouve l'équipe draft demain avec un petit nouveau en plus. Je ne vous spoil pas, mais il y aura un petit nouveau. Et puis nous, on se retrouve dans le fauteuil. Je l'ai dit, rappelez-vous, tout est en avance d'une heure dimanche. On se retrouve donc nous à 16h30 dans le fauteuil de la semaine sur twitch.tv/tdactu. Ciao, ciao, bonne fin de semaine.
Les meilleures analyses, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tel gâteau risotto, les meilleures recettes en TDAQ.
Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procash Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points et on finit en requin.
The biggest names in tennis are coming to Paris for the most anticipated Roland Garros in years. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. Experience 3 weeks of unparalleled tournament access as the world's top players in tennis face off against each other. Will the veteran champions continue their dominance, or will a fresh face emerge to challenge their legacy on the clay courts? Daily live coverage of this epic showdown begins Monday, May 20th. Don't miss a matchup. Stream it now with Tennis Channel Plus to be there when it happens.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.